Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christophalis. Rediffusion du 28 mai 2017. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui, consacrée à notre rencontre avec Jean-Claude Pentier, grand pianiste et prêtre orthodoxe, recteur de la paroisse de la Protection de la Mère de Dieu à Chartres. Deuxième émission, nous allons parler de quelques questions fondamentales qui relèvent à la fois de la foi et de la musique. D'ailleurs, ces émissions s'intitulent « Foi et musique ». Et nous allons peut-être commencer tout de suite par écouter un morceau de musique qui est une prière, « Que ma prière s'élève vers toi » par le chœur du Patriarcat de Moscou. On l'entend d'abord et puis on demandera à Jean-Claude Pentier un commentaire. Que ma prière s'élève vers toi, chant splendide, chanté par le chœur du Patriarcat de Moscou. Jean-Claude Pentier, vous avez choisi cette musique parce que c'est une très belle musique, parce que c'est une très belle interprétation, parce que c'est une prière.
Alors, pour toutes ces raisons-là, d'abord parce que j'ai une grande admiration pour ce chœur qui fait toujours des choses admirables, et puis aussi un peu de façon un peu militante, je dirais, parce que pour beaucoup de nos compatriotes, la musique orthodoxe, c'est automatiquement un petit peu, c'est le grand chœur russe somptueux, magnifique, dans des œuvres de la fin du 19e siècle, ou même un peu plus tard. Or, c'est une musique qui est très diverse, qui est très varié. Chaque peuple n'a pas qu'une tradition. Il y a cette tradition, naturellement, de chœur à quatre voix, qui est très connue, une tradition plus particulièrement russe. Mais chez les Russes, il y a des choses qui sont plus anciennes. Il y a ce plein chant orthodoxe, si je veux dire, qui est d'une beauté absolument extraordinaire. Et en plus, il y a presque un figuralisme, parce que il dit que ma prière s'élève comme l'encens, et il y a une sorte de phrase un petit peu en spirale qui monte, et c'est très imagé. Il y a beaucoup de traditions, il y a la tradition de Géorgie qui a une forte identité, il y a naturellement toutes les traditions de langue arabe, il y a la tradition grecque, qui est une énorme tradition que l'on connaît en France beaucoup moins que la tradition slave. Et donc voilà, et en tant qu'orthodoxe et en tant que musicien, j'ai envie de dire, mais découvrez toutes les musiques que nous avons dans notre patrimoine, qui est très très riche et très varié.
Donc, des musiques qui sont à la fois des prières. Et si vous voulez bien, on va passer à une question qui est quand même fondamentale. Est-ce que la spiritualité, ce qu'on appelle la spiritualité, et qu'on cherche d'habitude dans ce qu'on appelle aussi la religion, est-ce que la spiritualité est liée directement et de manière, je dirais, absolue à ce qui est un sujet religieux? Je vous dis ça parce que pendant l'entretien que nous avons eu pour préparer cette émission, quand j'ai parlé de spiritualité, la première idée que vous avez eue, c'était l'Arietta de la Sonate opus 11 de Beethoven. Et ce n'est pas à l'origine une pièce religieuse.
Oui, je suis persuadé que ce n'est pas parce qu'on annonce que telle œuvre est sur un sujet religieux que ça la rend spirituelle. Il y a des musiques à thème religieuses qui n'ont pas un contenu spirituel très très dense, si j'ose dire. Et inversement, il y a des quatuors à cordes, des sonates qui peuvent être de véritables sommets de spiritualité, et tout particulièrement ce dernier mouvement de la dernière sonate de Beethoven, cette Arietta de sa sonate opus 111, qui est pour moi un sommet musical, mais un sommet aussi de l'essor de l'esprit humain vers ce qui le transcende.
Écoutons ce mouvement par Maurizio Pollini, donc le début, le thème. Sublime Arietta de la sonate opus 11 de Beethoven par Maurizio Pollini. C'est aussi une très belle introduction à notre thème que je voudrais aborder avec vous, parce que vous me l'avez dit quand on s'est rencontrés, je vous ai posé la question, quelle est pour vous la qualité majeure qui lie les deux fonctions, celle du musicien et celle du prêtre? Et vous m'avez répondu, l'écoute. Alors, l'écoute ici, on voit avec Beethoven, il nous appelle à une écoute très profonde, mais votre expérience?
Oui, profondément, je crois que on cherche parfois ce qui empêche qu'il y ait plus de public à des concerts de musique dite classique, comment toucher d'autres publics, est-ce qu'il faut il faut infléchir nos programmations vers des choses plus faciles d'écoute et tout. Je pense que le problème de fond, c'est que tout dans notre société actuelle nous sollicite toujours par la sensation, par une succession rapide d'impressions, et jamais ne prend le temps de s'adresser à notre écoute, à notre silence, à l'arrêt dans tout le flux agité de notre vie. Et je pense que la musique peut avoir ce rôle spirituel de quand quelqu'un vient au concert, achète sa place et se place dans un siège simplement pour écouter. Je pense que c'est déjà un premier acte spirituel. Alors naturellement, si vous me permettez, je vais faire un détour par l'Évangile. Un évangile qui m'est très cher, qui est celui de notre cher ami Zachée. Voilà. Zachée, il veut voir le Christ passer. Il est petit, il est gêné, donc il peut pas le voir. Donc il prend de la hauteur et il monte sur un sycomore. Alors là, ça peut être un des rôles de la musique. Voilà, c'est d'être ce sycomore qui permet de prendre la hauteur. Elle peut être une aide ou même provoquer ça. Et puis, l'acte d'après, c'est que le Christ invite Zachée à redescendre et à descendre chez lui, c'est-à-dire dans son intériorité, dans son intimité, pour une vraie rencontre avec le Christ, puisqu'il va dîner chez lui. Là aussi, ça peut être un des rôles de la musique, de inviter à cette descente en nous-mêmes. Le troisième pas est hors de la musique. Il est vraiment du domaine de la vie spirituelle. C'est que ce qui va authentifier tout ça, est-ce que Zachée dit très bien, maintenant je vais partager, je vais rendre, voilà, c'est... On sait très très bien que c'est pas toutes les actions justes qui nous sauvent, c'est pas elles qui nous justifient, mais c'est elles qui impriment un sceau d'authenticité sur ce que nous avons pu ressentir, recevoir, apercevoir. C'est là où on quitte le domaine de l'art pour entrer vraiment dans celui d'une démarche dans le sens fort, une démarche spirituelle.
Voilà donc une lecture évangélique de l'approche musicale, mais qui évidemment appelle à une réflexion très profonde. Père Jean-Claude, on passe maintenant à Mozart. Alors, c'est la flûte enchantée. On sait très bien qu'elle c'est la, en fait, pratiquement la dernière œuvre de Mozart, terminée, enfin bon, écrite à la fin de sa vie. C'est le moment des épreuves. À la fin, le couple Tamino et Pamina vont passer les épreuves. Vous avez demandé la version de Carl Böhm. On respecte donc. On entend un extrait du final chanté par Evelyn Lear et Fritz Wunderlich, l'orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Carl Böhm. Et on revient à notre entretien.
Thank you.
Evelyn Lear, Fritz Wunderlich, Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Carl Böhm, extrait de du final de La Flûte Enchantée de Mozart. Nous sommes en compagnie du père Jean-Claude Pentier, un choix très personnel. Vous avez voulu que l'on passe ce passage, d'abord pourquoi ce choix, et puis une réflexion aussi sur la flûte. Évidemment, là, ce sont les épreuves qui vont arriver pour le couple, il y a ce côté mystique. On sait aussi que Mozart avait des relations avec la franc-maçonnerie. Comment ressentez-vous cette, pas non seulement cette musique, mais je dirais cet acte aussi de foi, peut-être, je ne sais pas.
Bon, alors, il faut d'abord mettre les choses claires. C'est que la franc-maçonnerie, telle que Mozart l'a connue et l'a pratiquée, et est encore profondément chrétienne. Et dans sa loge, il y avait un archevêque, et énormément de loges avaient encore un prieur. Le côté laïcité très violente qu'il y a eu ensuite n'est pas le propre de la maçonnerie autrichienne que Mozart a connu. Et puis surtout, j'ai choisi cette musique-là parce que ce qu'elle exprime est au-delà de tous ces clivages et de tout. Il y a dans ce cri de... Oui, c'est un cri, c'est un appel. « O Tamino mine, O mon Tamino !» Et lui, « O Pamina !» Il y a dans l'œuvre, il se retrouve, c'est des retrouvailles. Et la musique exprime cette notion de retrouvailles bien au-delà de tout ça. Je trouve que cette musique exprime notre soif de réconciliation, de nous retrouver, avec Dieu, avec la partie de nous-mêmes, de réconcilier cette partie de nous-mêmes qu'il a toujours prié et celle qu'il a abandonnée. Et cette notion de se retrouver et de la pacification et de cette ferveur que cela implique est tellement exprimée dans ses premières mesures de cette scène. C'est admirable. Ça commence, alors là j'entre dans un peu de technique, par une sixte ascendante que Wagner prend comme thème du désir. Et Komosa a mis dans la bouche de Tamino, quand il voit pour la première fois cette image de la bien-aimée. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est au-delà de toute maçonnerie, de toute, c'est quelque chose qui, humainement, qui pour moi, dit quelque chose qui est sublime.
Merci beaucoup, Père Jean-Claude, pour ces deux entretiens, malheureusement trop courts, bien sûr. Nous allons terminer maintenant, et dans l'espoir que nous, fidèles, nous écouterons la musique autrement maintenant, et que peut-être ceux qui connaissent bien la musique auront peut-être cette expérience de sachez, comme vous avez dit tout à l'heure, que la musique leur serve d'arbre pour aller vers Dieu. Un grand merci. Donc, pour la fin, ce sera une composition d'Arvo Pärt, compositeur estonien, Summa, credo, par le chœur estonien Vox Clamantis. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Laetitia Kodia. Prise de son, Stéphane Desmond. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.